Chapitre 42. Kat se réveilla dans sa chambre de motel, les tempes écrasées par la migraine. Elle se déplia sur le rebord du lit, courbaturée, le flanc toujours douloureux, comme prisonnier de la mâchoire d'un monstre énorme. À l'aveugle, elle fit parcourir ses doigts sur la table de chevet pour saisir le flacon de Tylenol, sa béquille depuis 3 jours. Elle se souvenait à peine de comment elle était rentrée du bar la veille au soir en panique. Sa valise gisait au sol, renversée. Des flashs l'envahirent. Elle, en train de jeter dedans ses affaires dans l'optique de prendre la route dans la nuit pour quitter le Kansas. Puis l'étourdissement de l'alcool. Un bref sursaut de lucidité, et elle s'était écroulée. Kat s'observa. Elle était encore habillée. Elle se traîna jusqu'à la salle de bain pour contempler les dégâts.
Gueule de chiotte. Maquillage obligatoire.
Elle but un peu d'eau et posa ses paumes sur l'évier pour se caler. Maintenant que la crise de paranoïa due à l'excès de boisson était dissipée, elle devait dresser un plan d'action. Kelvin Snell était mort. Ce n'était pas un accident. Impossible d'être naïve à ce point. Son assassinat confirmait qu'il avait vu juste. Son adversaire était un empire entier et plus riche qu'un pays. Eneka. Rien que ça. Le plus prudent serait de rentrer, de donner ce que j'ai à Mrs. Fallings et d'oublier cette affaire. Sauf que ça ne lui ressemblait pas. Kat allait au bout des choses, toujours. Elle était bien trop impliquée désormais pour abandonner si près du but, et c'était devenu personnel. 1000 questions se bousculèrent et elle les chassa toutes, refusant de se laisser engourdir par les doutes. Ce qu'elle faisait n'était pas raisonnable. Si elle se posait une heure pour réaliser dans quel pétrin elle s'était fichue, Kat savait qu'elle s'écroulerait et renoncerait. Pourtant, sa nature la portait à un pragmatisme déterminé et éclairé par une forme de justice séculaire. Protégée par ses valeurs, elle devait dénoncer le mensonge. Ne pas se soucier de la taille du tyran. Elle n'était même pas compétente pour définir qui, au sein de l'entreprise, était mouillé, et elle s'en moquait. Sa mission était de retrouver Lena Fallings, et si, au passage, elle pouvait attirer le regard des autorités sur un crime, elle n'hésiterait pas un instant. « Tu réagis comme une gamine. » Elle voyait très bien l'adolescente qu'elle avait été. Fière de montrer à oncle Tony, et par là même indirectement à ses parents qui avaient toujours affiché vis-à-vis de ce métier et de sa fascination à elle une incompréhension douloureuse, son implication et sa réussite dans une cause noble qui excédait sa tâche de détective privé. Dans le cynisme ambiant, ce modèle de candeur, de spontanéité et d'idéal lui faisait du bien. Profondément. Pendant une seconde, un éclair de lucidité la fit s'interroger sur la nature potentiellement suicidaire de cette démarche. Mais cela sous-entendait une vision si noire d'elle-même qu'elle réfuta aussitôt cette hypothèse. Combien d'individus avaient au cours de leur vie, un jour, l'occasion de se confronter à un choix crucial, qui les mettait face à celle ou celui qu'ils avaient été autrefois, alors jeunes et nourris de rêves et d'idéaux, et les faisait réfléchir à ce qu'ils étaient devenus. Kat prit une douche presque froide pour effacer l'anesthésie de l'alcool et achever de se réveiller. Puis se noua les cheveux avec un élastique et s'habilla, tenue efficace, souple. Pantalon stretch, chaussures de marche, polo. L'heure n'était plus à l'apparence, à la séduction. Pourtant, elle s'accorda 20 minutes pour se parer d'un maquillage décent. Elle avait sa dignité. Lorsqu'elle sortit sur le parking du motel, elle prit soin de paraître décontractée et, l'air de rien, sonda tout le périmètre pour s'assurer que personne ne la surveillait. Elle ne nota rien de particulier et en fut presque déçue.
« Je ne me fais pas un film. » Snell est mort. Ce n'est pas un jeu, tout ça est vrai.
Elle prit sa voiture pour passer s'acheter un café, puis roula plein nord en direction de Wichita. Au siège du journal où officiait Kelvin Snell, on la fit patienter plus d'une heure avant de finalement la rembarrer. Le rédacteur en chef n'avait pas le temps de la recevoir compte tenu des circonstances. Elle hésitait à aller se présenter à la police et renonça en approchant du commissariat. S'ils avaient quelque chose à lui demander, il la convoquerait. En fouillant sur Internet via son smartphone, Kat identifia l'adresse de Snell et s'y rendit. Une voiture de police restait garée devant,
les traditionnelles bandes jaunes et noires entourant une partie du domicile. Il fallait s'y attendre et elle se demanda pourquoi elle était venue jusqu'ici. Elle n'allait tout de même pas s'introduire illégalement chez lui. De toute manière, si le nom de son contact est dans son téléphone ou planqué dans son bureau, les flics ne vont pas tarder à mettre la main dessus. Kat devait se faire une raison. Elle ne rencontrerait pas le témoin de Snell, celui qui s'était échappé du camp. Mon Dieu, échappé. Le mot la choquait encore plus maintenant qu'elle avait vu le site dans la forêt. Elle mourait d'envie de passer un appel anonyme pour expédier tous les flics sur place afin qu'ils constatent par eux-mêmes ce qui se tramait derrière ces clôtures électrifiées. Sauf qu'ils ne s'y rendraient pas sans une très bonne raison, détaillée, vérifiée, et un groupe aussi colossal qu'Eneka n'était pas du genre à ne pas prendre ses précautions. À grands coups de millions de dollars, ils avaient dû décortiquer les vies de tous les dirigeants de l'État, depuis le gouverneur jusqu'au chef des polices locales en passant par les juges. Pour une puissance sans limite financière et morale, il existait différentes manières de s'assurer de la fidélité de n'importe qui. La corruption, le chantage, les menaces, ou tout simplement la promesse de pouvoir. Pris un par un, tous avaient leurs failles, qu'ils soient intègres ou pourris de longue date. Il suffisait de la cerner. Non. Kat ne devait se faire aucune illusion. Eneka verrouillait le secteur. Peut-être pas à tous les niveaux, mais suffisamment pour gagner du temps si cela était nécessaire. Elle rentra déjeuner à Carson Mills et, faute de mieux, se lança à nouveau dans la tournée des hôtels, chambres d'hôtes et toute forme de location de logement afin de présenter les photos de Lena et de Galvin Hutchinson avec l'espoir qu'on puisse les reconnaître. Sur la plupart des sites, Kat retomba sur les mêmes personnes que celles qu'elle avait déjà interrogées à ce sujet l'avant-veille, sans plus de résultats. Au moins, le message circulait et dans une bourgade de cette dimension, Kat ne doutait pas que sa population allait bavarder à propos de cette détective privée avec son accent de la côte Est et du couple qu'elle recherchait. S'il y avait un témoin du passage de Lena ou Galvin par Carson Mills, il finirait par entendre parler d'elle et la trouver. « Le camp des enfants de Jean aussi va savoir que tu es là. » C'était le risque. Tant pis. Elle l'assumait. Elle ne pouvait se planquer éternellement. Kelvin Snell est mort. Cette pensée surgit tandis qu'elle passait devant une armurerie. La loi sur l'achat et le port d'armes à feu au Kansas était très claire. Tout ou presque était autorisé, y compris se balader en pleine rue avec son arme sur soi. Pour autant, Kat préféra ne pas céder à la tentation. Elle ignorait si c'était son éducation, ses habitudes de pure New-Yorkaise, probablement la ville la plus intolérante aux armes de tout le pays, ou juste du bon sens, mais elle craignait que cela n'engendre plus de problèmes que de solutions. « Même si le camp se rend compte que tu furettes autour, ils ont de plus gros poissons à attraper. Ils ne vont pas assassiner le moindre curieux qui traîne tout de même. » Kat vit Kelvin Snell repousser ses lunettes sur son nez dans un geste précieux et elle en eut un pincement au cœur. Lui avait des preuves. Les montages de société écran, le témoin qu'il devait interroger. Comment avait-il su? Snell lui avait confié qu'il était prudent. Son rédacteur en chef était le seul au courant. Celui-ci l'avait-il trahi? Plus probable qu'il surveille Internet avec des logiciels espions qui analysent les recherches par mots-clés ou lorsqu'on tape le nom de plusieurs sociétés à eux, ce genre de piège. Ensuite, Eneka embauchait assurément des génies de l'informatique capables de pirater un ordinateur à distance, voir un téléphone, fouiller l'historique, lire les emails, les SMS. Et constater que Snell était sur leur dos et se rapprochait. Là encore, pour une entreprise milliardaire, ce n'était qu'un assemblage de compétences aisées à réaliser. Chacun à son poste, assigné à sa tâche, sans se poser trop de questions, sans comprendre la vision d'ensemble. Chaque employé ignorait tout de son implication dans le processus de mise à mort de Kelvin Snell. Il se contentait de faire son job, de délivrer l'information à un supérieur, qui lui-même transmettait à un autre, et ainsi de suite jusqu'à... Qui ? Le conseil d'administration ? Le patron lui-même ? Comment s'appelait-il déjà ? Edwin Kowalski. Bien que très discret, cet homme parmi les plus riches de la planète n'avait pu échapper à l'intérêt des médias. Et Kat avait déjà vu sa photo. Celle d'un personnage effacé qui semblait presque ne pas être à sa place.
La privée se gara sur une place dans la rue principale et tapa le nom du dirigeant sur Google. Issu d'une famille bourgeoise du Vermont, sans histoire, plutôt bon étudiant sans être brillant. Université de Yale, tout de même. Il avait fondé une petite boîte de programmation pendant ses études, avant de travailler sur le transfert de données à très haut débit, puis sur leur stockage. Le coup de génie du personnage avait été d'acheter pour une bouchée de pain des terrains qui n'intéressaient personne dans des territoires quasi polaires, où il avait construit de vastes hangars à grand renfort d'aide financière des régions concernées, trop heureuses d'enfin pouvoir dynamiser l'emploi de ces zones habituellement boudées par l'économie. Lui achetait le sol et bâtissait les infrastructures près de villages au taux de chômage prohibitif pour offrir du travail. Les aides de l'État se chargeaient d'installer les câbles nécessaires au transport des données sur des centaines de kilomètres. Au-delà de l'investissement minimisé, c'était sur le coût d'entretien que Kowalski avait tout gagné. Les conditions climatiques polaires suffisaient à refroidir les blocs de disques durs et les serveurs de plus en plus monstrueux qu'il empilait pour satisfaire la demande de ses clients, là où ses concurrents dépensaient des millions en climatisation permanente. Dans un monde qui se virtualisait, mais où paradoxalement le moindre email devait être stocké physiquement quelque part pour son archivage, Kowalski offrait une solution économique à tous les prestataires de services. Sa fortune s'était construite en une décennie à peine, avant de croître exponentiellement à mesure qu'il diversifiait ses activités. Kat réalisait qu'Edwin Kowalski incarnait cette poignée d'hommes et de femmes dont on ignorait finalement tout du profil psychologique, de leurs intentions ou de leur équilibre mental, mais qui accédaient, en moins d'une génération, au sommet, parmi les plus puissantes personnalités de la planète, avec des ressources économiques inépuisables à leur disposition et un pouvoir démentiel. Sans avoir de compte à rendre à quiconque, ni se soumettre à aucune forme de contrôle. Dans un système régi par l'argent, la mondialisation capitaliste leur conférait un statut de prophète. Ils étaient libres de faire régner leur propre religion parmi les hommes, une foule d'adeptes liés par le canon de la nourrice sonnante et trébuchante, aveuglés par ces nouveaux évangiles fondateurs de mode et créateurs de tendances. Qui aujourd'hui pouvait se targuer de ne pas fréquenter le temple d'Amazon? De ne pas avoir Google pour Bible, smartphone et tablette en main comme autant de signes ostentatoires de ses croyances personnelles, addicts à la confession sur Facebook, Instagram, Twitter? Plus que des prophètes, des demi-dieux. L'humanité s'était elle-même rendue dépendante de ce panthéon assemblé en si peu de temps par ses propres soins. Une cour divine, constitué d'une dizaine de visages à peine et qui, maintenant installé dans les cieux, comptait bien façonner cette terre selon son bon vouloir. Groggy sous l'effet du vertige qu'entraînaient ces constatations, Kat décida d'aller prendre l'air. La journée touchait à sa fin, elle n'avait pas obtenu de résultats concluants et commençait à se sentir démunie, sans idée pour la suite. Tout ne pouvait pas s'arrêter ainsi. Elle ne s'imaginait pas conclure face à Annie Fallings que sa fille était probablement enfermée dans un camp retranché sans savoir si elle en était heureuse ou le subissait. Kat dîna dans un restaurant à l'ancienne, tout droit sorti des années 1960, avec son carrelage à damier, ses box avec banquette en sky et le répertoire musical idoine craché par le jukebox. Il ne manquait que les serveuses sur patins à roulettes et le visage rassurant de Richie Cunningham. Elle avala son omelette au milieu des familles, observant, curieuse, ouverte aux autres, et s'accorda même un milkshake pour se remonter le moral. Elle tritura son téléphone, ne sachant si elle devait appeler Mitch, entendre sa voix pour se rassurer, calmer le jeu après le froid de ces derniers jours, puis s'abstint. Elle n'avait pas le courage. La soirée lui fit du bien malgré tout, dissipa une partie de son spleen. Lorsqu'elle rentra au motel, la nuit était tombée et Kat n'était pas plus avancée. Faute de mieux, elle envisageait d'aller écumer les tribunaux des comtés environnants à la recherche d'affaires concernant Galvin Hutchinson et dans l'espoir d'en sortir un nom ou une adresse. Peut-être que la base de données Pacer n'avait pas tout enregistré après tout. Peut-être qu'elle n'avait pas fouillé correctement. Elle n'y croyait pas elle-même, mais devait se résigner à tout tenter. Si Hutchinson avait débarqué au Kansas, c'était peut-être parce qu'il avait de la famille éloignée, un camarade de prison ou une vieille affaire qui l'avait amené dans sa jeunesse
à y poser ses valises momentanément. De toute façon, Kat n'avait rien d'autre. Il fallait entamer le boulot ingrat de fourmi. Elle claqua la porte derrière elle, pressée de retirer ses chaussures, lorsqu'elle s'interrompit sur le seuil. Son corps l'alerta en une fraction de seconde, dressant le duvet de sa nuque et déclenchant une brusque inspiration. Elle devina une présence dans la chambre. Une odeur étrangère flottait dans l'air, en même temps que le sifflement presque imperceptible d'un souffle régulier. On l'attendait. Kat tâtonna sur le mur jusqu'à trouver l'interrupteur. « N'allumez pas la lumière », lui ordonna une voix grave. « Ça ne sera pas nécessaire ».